Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Bien, on s'intéresse aujourd'hui à la presse, aux journalistes, et violations de la liberté de la presse. Quelles sont les voies de recours? Vous savez, les violations de la liberté de la presse sont fréquentes en République démocratique du Congo, d'après l'ONG Journalistes en danger, JED. Par exemple, certaines autorités politico-administratives ont multiplié les interdictions et les fermetures des médias chaque fois que les émissions diffusées mettent en cause leur gestion. Les arrestations, les menaces, les agressions des journalistes censurent contre les médias se sont considérablement accrues. Alors, quelles sont les voies de recours en cas de violation de la liberté de la presse? Professeur Munkeni Lapès est spécialiste en droit des communications. Il va intervenir depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. Alors, professeur, est-ce qu'on peut revenir sur les différentes formes de violation de la liberté de la presse enregistrées en RDC?
D'abord, il faut commencer par dire qu'est-ce que c'est que la liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est avant tout, c'est un fondement important de la démocratie. Mmh. On ne peut pas construire une démocratie si la presse n'est pas libre, parce que la presse, c'est le voie de passage des expressions des personnes. Mais cette liberté-là de la presse n'est pas une liberté absolue. Le journaliste n'a pas une liberté absolue de dire ce qu'il veut dire. Le journaliste doit pouvoir faire des choix, c'est-à-dire libre, sa liberté, c'est le fait de pouvoir choisir, décider qu'est-ce qu'il doit dire et qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. Ces choix-là, les journalistes les fondent sur deux fondements, à la limite. Mm-hmm. C'est le droit, la loi, et toutes les valeurs de responsabilité qu'il a. Le droit, les valeurs du droit sont défendues par les juridictions de la loi. Les valeurs, qui sont des valeurs plus ou moins professionnelles et morales du journaliste, sont défendues par les organisations que le journaliste lui-même a mises en place, notamment le Haut Conseil de l'audiovisuel, notamment l'Observatoire des médias, notamment les organisations comme l'Union de la presse du Congo. Donc, oui, quelque part, le journaliste est assis entre deux certitudes pour faire son travail. Il y a d'une part la loi qu'il doit observer, d'autre part les valeurs, ces valeurs professionnelles qu'il doit observer et qui sont, si vous voulez, surveillées par ce que nous appelons les instances de régulation.
Voilà.
Bon, maintenant, si on dit quelles sont les libertés de la presse qui sont violées le plus souvent,
oui,
ben, c'est la liberté, premièrement, de l'accès à l'information. On remarque souvent que dans les pays, même les grands pays de vieille démocratie, souvent ceux qui détiennent l'information n'aiment pas donner l'information. Or, c'est l'information qui fonde la démocratie, c'est l'information qui fonde la vie en société. Donc aujourd'hui, les journalistes sont toujours en train de lutter pour obtenir le droit d'accéder librement à l'information. Ça, c'est la première possibilité de violation des droits de la presse. Bon, il y a aussi les autres violations, le fait de mettre le journaliste dans des conditions de travail difficiles, c'est violer aussi sa liberté, parce que quand vous travaillez et que vous ne pouvez pas avoir les moyens de faire votre travail librement, eh ben, on viole vos droits.
Alors,
c'est ça.
Oui, professeur.
Pour le reste, on reproche aux journalistes de diffamer, par exemple, ou de raconter ce qui n'est pas vrai, etc. Ça, c'est plutôt du côté de ceux qui reçoivent l'information du journaliste.
Voilà, vous venez là de décrire les différentes libertés qui sont violées. D'abord, vous avez parlé de la difficulté d'accès à l'information, à les conditions difficiles de travail, et puis à diffamation. Ça, c'est par rapport à ceux qui reçoivent l'information. Alors, revenons d'abord à l'accès difficile à l'information. Et pourquoi les sources ne veulent pas donner facilement l'information aux journalistes?
Mais parce qu'ils ont des choses à cacher. Il n'y a que ça. Parce que si quelque part, je prends les sources les plus c'est les sources qui cachent le plus d'informations, ce sont les sources qui sont en politique, éventuellement ceux qui gèrent les pays, ceux qui gèrent l'administration, etc. etc.
Oui.
S'ils ne peuvent pas permettre aux journalistes d'accéder à l'information, c'est que quelque part, ils ont des choses à cacher. Parce que la meilleure liberté, c'est de travailler avec transparence, de telle sorte que lorsque le journaliste commet l'erreur de dire ce qui n'est pas vrai, au moins, la personne, la source d'information a les moyens de le traduire en justice parce que la source d'information peut prouver qu'il a mis à la disposition du journaliste toute l'information dont il avait besoin.
Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a ces sources n'arrivent pas à donner facilement l'information, librement? Alors, qu'est-ce que le journaliste peut faire? Est-ce qu'il y a des voies, des recours par rapport à cela?
Ah non, mais il n'y a pas de loi de recours parce que en ce moment ici d'ailleurs, la semaine passée, il y a eu des séminaires autour de l'accès de l'information. Le journaliste est en train de vouloir déposer une loi au Parlement pour une loi qui serait une loi assez générale qui permettrait aux journalistes d'accéder à l'information. Mais avant cette loi-là, on ne sait pas si ça va passer, avant cette loi-là, le journaliste n'a pas d'autre recours que de procéder à ses propres méthodes, à ses propres moyens pour accéder à l'information. On est allé même dans certains pays jusqu'à à violer certaines structures simplement parce que le journaliste veut obtenir l'information. Souvenez-vous du scandale de Watergate, des actions que le journaliste pose parce qu'il doit donner l'information. C'est un droit du public, et lorsqu'il a en face de lui une source d'information qu'il ne peut pas lui donner l'information, bon, il utilise pratiquement
d'autres
tous les moyens,
oui.
Et parfois des moyens qui sont des moyens pas très 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 légaux.
Alors, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut le condamner à ce moment-là, après avoir utilisé des moyens qui ne sont pas légaux?
Non, parce que la loi, en fait, la loi et les instances de régulation ont prévu dans la loi sur la liberté de la presse et dans le code du journaliste congolais, ont prévu des mécanismes qui ne sont pas des mécanismes de pénalité qui vont vers le pénal, mais des mécanismes de rectification de l'information. Normalement, on n'arrête pas le journaliste. Lorsqu'il a dit des choses qui ne sont pas exactes, c'est lui qui se sent lésé à le moyen d'aller vers le journaliste et de rectifier l'information, et le journaliste a l'obligation de publier ses...
le droit de réponse.
Pardon?
C'est ce qu'on appelle souvent le droit de réponse.
De publier, c'est le droit de réponse, c'est ce qu'on appelle le droit de réponse. Et dès lors qu'on n'a pas utilisé ces moyens-là, on ne peut pas amener le journaliste devant la justice.
Voilà. Alors, vous avez parlé également des conditions difficiles de travail. Nous savons que bon nombre des journalistes dans les différents organes de presse travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et bon nombre n'ont pas des contrats qui les lient à leurs employeurs. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces cas-là pour que leur situation soit améliorée?
Le journaliste congolais vit depuis des années, vit dans une situation de lutte permanente. Autant il lutte pour avoir des conditions de travail acceptables, autant il lutte pour accéder à l'information. Il n'a que ça comme moyen, c'est-à-dire lutter. C'est pour cela qu'il y a un syndicat, c'est pour cela qu'il y a des organismes comme le GED qui défendent plus ou moins les journalistes et qui poussent par plusieurs voies à ce que le journaliste soit et travaille dans de bonnes conditions de professionnelles éventuellement. Mais cette lutte-là est une lutte, c'est vrai que ça doit être une lutte permanente, mais faille-t-il, quelque part, dans une démocratie, ne pas aider les journalistes? Parce que la liberté doit être un fait construit autant par les journalistes, mais également par la société elle-même. Donc, ici, si le journaliste doit continuer à lutter pour sa liberté, pour obtenir des meilleures conditions de travail, il appartient également aux structures, aux instances de la démocratie, notamment le gouvernement, notamment toutes les associations, d'aider le journaliste à accéder à ces conditions, ces meilleures conditions de travail. Sinon, on ne pourra pas avoir une liberté totale de la presse et donc on ne pourra pas avoir une démocratie dans le pays.
Violation de la liberté de la presse, quelles sont les voies de recours? Nous recevons aujourd'hui le professeur Munkeni Lapès, un spécialiste en droit des communications. Il intervient depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. Nous avons déjà un auditeur en ligne, Gilbert, il nous appelle des Kalemi. Vous voulez également participer? Composez le 081-890-63-94.
Radio Kapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Violation de la liberté de la presse, quelles sont les voies de recours? Gilbert, vous êtes à Kalemie, bonjour.
Bonjour monsieur, j'ai dit Daniel Kachama, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Une petite précision, c'est Fulbert, c'est pas Gilbert.
Bien, c'est Fulbert.
Ma question.
Oui, Fulbert, oui, allez-y. Fulbert.
Mmh. Oui, ma question est de savoir quelle est la différence qu'on peut établir entre la liberté de la presse et les droits de la presse. Mais aussi, la deuxième question, je voulais savoir comment un journaliste peut-il participer à la démocratisation de son pays à travers la liberté de la presse.
Bien, merci. Professeur Munkeni.
Oui. La différence entre droit de la presse et liberté de la presse. Mmh. Le droit de la presse, c'est, si on pourrait parler, c'est comme une sorte de cadre, c'est comme une sorte de clôture qui permet aux journalistes de travailler librement. Donc, le droit de la presse, c'est le cadre qui a été mise en place pour que le journaliste travaille librement sans sortir de cette liberté-là. C'est simplement ça. Alors, l'autre question, c'est comment un journaliste peut
participer
aider,
à la démocratisation,
à la démocratisation de son pays.
Oui.
Mais en informant, parce que une démocratie, c'est quoi? C'est le fait de permettre au peuple de gérer son pays. Mais comment vous pouvez gérer votre pays si vous n'avez aucune information sur cette gestion du pays? C'est simplement ça. Le journaliste, c'est le point, c'est une sorte de passerelle par laquelle passent les informations de la gestion du pays vers le public qui a le droit de savoir comment son pays est géré. Donc, le journaliste, c'est le fondement même de la démocratie, parce que si le journaliste n'informe pas, ne donne pas les éléments nécessaires au peuple, au public, de savoir comment son pays marche, et à la limite de savoir qui doit gérer son pays, parce qu'il a l'information même sur ceux qui gèrent bien ou qui gèrent mal, pour pouvoir décider de les réélire ou de ne pas les réélire plus tard. Donc, le journaliste, c'est le fondement même de la démocratie.
Voilà, c'est le fondement même de la démocratie. Je disais tout à l'heure, professeur, vous avez parlé des conditions difficiles de travail. Bon nombre de médias sont tenus par des politiques et les journalistes sont doivent faire, n'est-ce pas, travailler selon les caprices, suivre les caprices du propriétaire. Parfois, ils marchent même sur la déontologie, parfois sur les règles de la profession. Et ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de salaire. Bon, ils doivent recourir au phénomène coupage. D'ailleurs, vous avez eu à rédiger votre mémoire sur ces phénomènes. Alors voilà, et ça dure depuis plusieurs années. Aujourd'hui, qu'est-ce que les journalistes peuvent faire pour rentrer dans leurs droits?
C'est ça qui est paradoxal. Autant la démocratie équivaut à la liberté, donc chacun peut, à la limite, créer son organe de presse et gérer son organe de presse, autant, quelque part, il faut des garde-fous pour cette liberté-là. N'importe qui ne peut pas créer un organe de presse. N'importe qui ne peut pas gérer comme il l'entend un organe de presse. Je crois qu'il y a, à défaut de peu, au risque même de passer sur cette liberté-là, d'enfreindre cette liberté-là, je crois que il faut que l'État puisse surveiller un peu le secteur de la création des entreprises de presse et donner un certain nombre de contraintes à la création de ces entreprises de presse. Parce que si vous créez une entreprise de presse, c'est une entreprise comme toute entreprise. Ceux qui ont des entreprises de vente de produits, ils ont l'obligation de payer ceux qui travaillent. Pourquoi ceux qui sont des propriétaires des organes de presse pensent que, quelque part, ils ne doivent pas payer ceux qui travaillent pour eux? Ça, c'est l'État, les structures éthiques, le ministère de l'économie ou le ministère des finances ou je ne sais pas moi qui doivent aller regarder aussi comment sont gérées, créées ces entreprises de presse, de sorte à assurer plus ou moins le minimum pour ceux qui travaillent là-bas. Le ministère du Travail, c'est aussi son... c'est dans ses prérogatives que de savoir qu'on paye les gens et qu'on les paye plus ou moins bien. Parce qu'il y a, je crois, dans ce pays ici, il y a un minimum légal de salaire qu'on impose à toutes les entreprises. Alors pourquoi on les imposerait à des entreprises, d'autres entreprises et pas aux entreprises de presse? Sur ce plan-là, les entreprises de presse doivent respecter la loi du point de vue de la législation du travail exactement comme n'importe quelle autre entreprise.
Bien, nous avons deux auditeurs en ligne. Antoinette Chabani nous appelle depuis Uvira, au sud Kivu, et Ismaël Mompoy à Lubumbashi. Antoinette, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je suis Arsène Chabani Antoinette depuis Uvira, comme vous l'avez dit. Je suis aussi journaliste. Je voulais savoir que quand on détient une information, on l'a déjà publiée, c'est déjà passé, mais que des gens qui ne veulent pas l'entendre embarquent et vous disent de donner vraiment vos sources que vous ne voulez pas. En cas de torture, qu'est-ce qu'on peut faire?
D'accord, merci. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Daniel, je suis d'une Kacham.
On vous écoute.
Bon, ma première question était celle de savoir, étant donné que les journalistes travaillent en fonction publique, ils travaillent pour l'humanité, pour nous nourrir avec les informations. Mais pourquoi ils sont seulement payés que par le privé plutôt que par l'État? Pourquoi on ne peut pas aussi élaborer la loi qui peut concerner à ce que ces journalistes soient aussi payés et par l'État? Je vais demander d'abord une différence entre un journaliste et un animateur, et entre ces deux catégories, qui peut présenter ou tenir un journal. Merci beaucoup.
Bien, merci Ismaël. Ignace Ndala est en ligne depuis Kolwezi. Bonjour Ignace.
Bonjour, je voudrais saluer les auditeurs et notre invité.
Oui.
Ma préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'il y aurait-il une relation entre la formation du journaliste et la violation de la liberté de la presse? Je veux simplement dire parce que, comme mon professeur venait de le dire, on trouve n'importe qui en train de se passer pour journaliste. Est-ce que ce n'est pas l'une des causes de ce problème qui se pose?
Et d'accord. Merci Ignace de Kolwezi. Alors professeur Munkeni, on va commencer par Antoinette qui est journaliste à Uvira. Elle nous dit elle a livré une information et puis certaines personnes se sont senties lésées et sont venues la voir pour qu'elle puisse révéler les sources et on l'a fait passer peut-être par des tortures pour qu'elle arrive à révéler les sources. Alors qu'est-ce que le journaliste peut faire à ce moment-là?
Bon, déjà au départ, il y a un principe sacro-saint du travail du journaliste. Le journaliste ne livre pas sa source. C'est comme ça, c'est dans les principes du journalisme même, parce que, tenez-vous bien, si le journaliste, à chaque fois qu'il a une information, doit pouvoir dire qui lui a donné l'information, le journaliste ne pourra plus jamais avoir des informations parce que tout le monde aura peur.
Oui.
Mais maintenant, le journaliste, le journaliste procède? Lorsqu'il a une information et que le détenteur de l'information ne voudrait pas qu'on le cite, oui, le journaliste a plusieurs formulations pour dire qu'il a obtenu l'information. Je donne l'exemple d'une formulation. On pourrait dire de sources bien informées du gouvernement, de roi de province, de sources bien informées de la commune, etc. Et il donne l'information.
Oui.
Maintenant, celui qui se sent lésé, il n'a pas à venir traquer le journaliste. Il n'a qu'à venir avec un droit de réponse pour démontrer au journaliste que cette information qui a été livrée est une fausse information. Si quelque part il ne se sent pas concerné par l'information, est-ce que c'est difficile de dire non, ce que vous avez dit là, quelles que soient vos sources, c'est une mauvaise information, c'est une fausse information, voici la vérité, au lieu de traquer quelqu'un, parce que entre nous, on ne peut pas la tuer. Donc, même si on traque ces journalistes-là, demain, il y a un autre journaliste qui pourra tomber sur la même information et qui va donner l'information. Alors, pourquoi traquer les journalistes au lieu de prouver que l'information est une fausse information?
Voilà. Et Ismaël de Lubumbashi dit, pourquoi ne pas élaborer une loi qu'on va déposer au Parlement pour que tous les journalistes, par exemple, soient payés par l'État? Parce que dans les différents organes de presse, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de salaire.
Non, je ne pense pas qu'on puisse en arriver là. Nous sommes déjà sur la route de la démocratisation et donc sur la route de la liberté d'entreprendre. Les privés doivent pouvoir, s'ils ont les moyens, doivent pouvoir mettre en place des organes de presse. Et ces organes de presse ne dépendent pas de l'État. Je ne vois pas pourquoi l'État va payer même des journalistes qui sont des journalistes par intérêt. Non, je crois que ça ne marchera même pas. D'abord, un, il faut que l'État ait beaucoup d'argent pour payer tout le monde. Deuxièmement, quelle est la logique derrière ça? Quelqu'un crée son entreprise et c'est l'État qui s'en charge. Non, ça, ce n'est pas possible. Tout ce que l'État a à faire, c'est contraindre ceux qui ont créé des entreprises, de la même façon que l'État va contraindre ceux qui ont des entreprises commerciales à payer l'impôt, à payer les taxes, etc. Il faut que l'État arrive à contraindre ceux qui ont créé des organismes de presse à bien payer leur personnel. Il y a un ministère, le ministère du Travail, et son rôle, c'est de faire valider tout ce qui est dans la législation du travail. Donc ce ministère-là doit pouvoir aller vers les entreprises de presse et voir dans quelles conditions ces entreprises là travaillent.
Bien.
C'est une mauvaise idée que de penser que l'État doit pouvoir payer les journalistes. Et puis si c'est l'État qui paye les journalistes, ça signifie que ces journalistes seront de moins en moins libres.
Bien. Violation de la liberté de la presse, quelles sont les voies des recours?
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Violation de la liberté de la presse, quelles sont les voies des recours? Okapi Service reçoit aujourd'hui le professeur Munkeni Lapes, spécialiste en droit des communications. Il intervient depuis Lubumbashi, dans la province du Katanga. Nous avons deux auditeurs en ligne. Christian nous appelle de Kalemie et Gaston Ngandou de Kinshasa. Christian, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question? Oui, quelle est votre question, Christian?
Merci, j'ai au moins deux questions. La première est la suivante. Quand est-ce qu'un journaliste peut avoir un parti pris? Ça, c'est la première question. Et la seconde, est-ce que la déontologie journalistique est-elle différente entre celle qui s'applique à Kinshasa et celle qui s'applique ici à Calémie? Parce que je vois, c'est comme s'il y a une petite différence, que l'invité puisse m'expliquer.
Alors, Christian, dites-nous exactement qu'est-ce qui se passe à Calémie.
Ici à Calémie, oui. Il y a des journalistes qui ne savent concernant quelque chose concernant la déontologie. Ils partent en dehors de la déontologie, raison pour laquelle moi je pose cette question et l'invité puisse me donner un peu quelques lumières par là.
Oui, qu'est-ce que ces journalistes ont fait par exemple? Donnez un cas précis.
Écoutez, monsieur le journaliste, c'est juste, moi je peux pas énumérer les actes que les journalistes font.
Voilà. Vous ne pouvez pas donner un cas précis. Merci. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Gaston.
Bon, comme le constat est fait que dans notre pays, la liberté, les droits, la liberté à la presse, disons, de la presse n'est pas observée, les journalistes ne sont pas, disons, libres de dire toute la vérité. Je voulais poser la question à l'invité. Devant telle situation, comment est-ce que nos journalistes doivent ces derniers temps se comporter? Est-ce que se contenter de divulguer les informations qui ne peuvent pas, vu notre situation, être divulguées et se livrer au risque d'être tués ou et avoir un peu de réserve là pour dire qu'il n'y a pas la démocratie ici, il ne faut pas s'arrêter de parler de cette liberté-là. Merci.
Bien, merci Gaston Ngandou de Kinshasa. Kalinga nous appelle de Kamina, dans la province du Katanga. Bonjour Kalinga.
Bonjour Radio Capi, bonjour l'invité. J'ai suivi vraiment l'invité avec beaucoup d'intérêt. Oui. Et je voudrais poser la première question à l'invité de savoir est-ce que la liberté de presse existe-t-elle en République démocratique du Congo? Et s'il répondait négativement, il va nous donner les raisons qui font que la liberté ne puisse pas exister. Et la deuxième question est de savoir est-ce que il y a une procédure réservée pour sanctionner les journalistes dans tous les territoires nationaux. Merci, je vous en prie.
Bien, merci Kalenga, merci à tous les auditeurs qui ont appelé. Professeur Munkeni, on va commencer avec la question, on revient à la question d'Ismaël, qui dit, il veut comprendre quelle est la différence entre un animateur et un journaliste, et voilà, il dit, il y a un autre qui dit, quelle est la relation, il y a entre, peut-il y avoir une relation entre la formation du journaliste et les violations, parce que d'après certains auditeurs, les journalistes se comportent mal, certains livrent des informations, ne respectent pas la déontologie, voilà, il y a Christian Descalemi qui nous a même parler de cela, c'est ce qui fait que, bon, voilà, ils ont des problèmes, soit avec les politiques ou avec la justice.
Ok. Bon, différence entre animateur et journaliste. Bon, l'animateur, c'est celui qui anime, qui essaie de prendre une antenne, par exemple, c'est à la radio ou à la télévision, pour parler de tous les sujets, éventuellement, sans nécessairement respecter certaines modalités de l'octroi de l'information. Le journaliste, lui, la différence, c'est quoi? C'est que le journaliste, c'est celui qui recherche l'information, peut-être, et qui le diffuse. Il recherche l'information, il la traite et la diffuse selon un certain nombre de modalités. Des règles déontologiques, notamment, éthiques, il doit savoir ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Or, chez l'animateur, il n'y a pas, à la limite, cette déontologie-là. L'animateur est un peu plus libre d'organiser son animation sans nécessairement recourir à la déontologie. C'est pour cela que le métier de journaliste passe souvent par la formation. Parce que par la formation à l'école, on apprend aux journalistes les règles de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Et on donne aussi aux journalistes les règles éthiques et déontologiques qu'il doit respecter pour pouvoir faire l'information. Relation entre formation et justice et violation de presse,
oui. Oui,
il y a une certaine relation parce que le journaliste qui est passé par la formation, j'entends ici la formation de l'information, des sciences de l'information, a non seulement acquis des modalités d'écriture de l'information, mais également a appris l'éthique et la déontologie. Nous insistons beaucoup sur l'éthique et la déontologie. C'est ça qui peut assurer à un journaliste peut lui donner les moyens de faire une information convenablement. Donc, on peut penser que celui qui n'est pas passé par la formation du point de vue de l'éthique et de la déontologie,
oui,
serait moins outillé pour pouvoir bien présenter l'information par rapport à celui qui est passé par l'école. Donc, par principe, je crois qu'il y a un petit lien à établir là-bas. Mais bon, maintenant, il faut voir dans quelles conditions tous travaillent sur le terrain. Généralement, souvent d'ailleurs, c'est le terrain qui modèle un peu leur manière de travailler. Mais par principe, formation et violation de la loi,
oui,
souvent ça va ensemble. Si on est moins formé, on est tenté de violer la loi parce qu'on n'a pas des repères pour pouvoir travailler.
Alors, Gaston, à Kinshasa, nous dit, comme la liberté de la presse n'est pas garantie dans notre pays, alors comment les journalistes doivent-ils se comporter? Doivent-ils avoir des réserves, ne pas diffuser certaines informations, risque de se faire tuer, ou bien, bon, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Non, je crois que les journalistes, son travail, c'est un travail, c'est comme un soldat. Hein. Il est entré dans ce métier-là comme un soldat. Il doit exercer son métier. Est-ce que le soldat, quand il est au front, il se pose des questions? Sûrement pas. Il fait son travail. Moi, j'ai toujours dit aux journalistes, à l'école ou lors des conférences,
oui,
que la meilleure manière de contourner un peu les violations et les contraintes, c'est de travailler en synergie. Parce que si vous êtes face à une information et vous savez que c'est une information qui est assez délicate, autant vous mettre en synergie, autant oui. travailler avec d'autres collègues,
oui.
d'autres organes, et vous faire passer l'information. Je ne pense pas que si aujourd'hui un journaliste tombe sur une information délicate et qu'il publie le premier papier aujourd'hui, et que demain, au lieu qu'il publie le deuxième papier, la suite de l'information, qu'il donne ça à un collègue d'un autre organe de presse qui publie, au bout d'une semaine, s'ils sont à 4, 5, 6 à avoir publié ça, je vois très mal quelqu'un en train d'aller porter plainte ou d'aller tuer 6 journalistes en une seule fois parce qu'ils ont publié l'information. Mmh. Et je crois pour nous, avant qu'on en arrive à des lois qui permettent aux journalistes de travailler librement, je me dis toujours que le journaliste peut passer par cette formulation-là, c'est-à-dire travailler en synergie, c'est ce qu'on appelle le journaliste d'investigation.
Oui.
Si vous avez investigué et que vous êtes tombé sur une information qui est une information délicate et importante, ne détenez pas ça tout seul, travaillez en synergie avec d'autres journalistes et attendez voir si la personne qui est concernée ou les personnes qui sont concernées ont la force de tuer une vingtaine de journalistes qui viennent vous tuer. Mais il ne faut pas que le journaliste puisse baisser les bras et dire qu'il ne va pas informer parce qu'il n'y a pas la liberté de la presse. Et là, d'ailleurs, je m'inscris en faux. Je ne pense pas qu'on puisse dire que dans ce pays, il n'y a pas de liberté de la presse. Non, la presse est libre dans ce pays ici parce que, du point de vue de la loi, la presse oui. est déclarée libre. Du point de vue de la déontologie professionnelle, la presse est déclarée libre aussi. Mais ce qui rend mal cette liberté-là, c'est un. Souvent, les journalistes ne contrôlent pas beaucoup ce qu'ils disent, ne vont pas au fond de la vérité.
Oui.
Deux, souvent, les conditions de travail ne permettent pas aux journalistes justement d'aller au fond de cette vérité-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous devez donner l'information et que vous n'avez pas le moyen d'aller au fond de cette information-là, de faire assez de recoupement pour arriver à la vérité,
oui.
bien entendu, vous allez faire une information qui ne peut pas être une information exacte et tout de suite, on va vous dire que vous avez violé la loi. Mais la liberté, moi, je suis convaincu par principe que la liberté de la presse existe. Regardez aussi ce que la presse arrive à publier ces derniers temps.
Mmh.
Vous allez voir que quelque part, ils ont aussi la liberté de publier. Et on ne les arrête pas toujours. Hein. On arrête quelques-uns, c'est vrai, et c'est dommage. Mais il y a énormément d'informations qui passent, qui viennent des journalistes qui ne sont pas inquiétés.
Voilà, professeur Moukeni Lapès, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en droit des communications. Vous intervenez depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. Merci d'avoir participé à cette émission et à la prochaine.
Au revoir, merci.
Au Capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidance, les mercredis jeudis de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.